Radio Kapi. Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Beni, au Nord Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Le chef de la diplomatie congolaise réitère la demande de la RDC au Conseil de sécurité d'accélérer le retrait de la MONUSCO à partir de décembre de cette année. La France dit veiller à ce que cette demande soit entendue, tandis que les États-Unis d'Amérique se sont montrés réservés quant au départ accéléré. D'importants dégâts matériels enregistrés à Bandundouville, dans la province du Kwilu, après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de mercredi à hier jeudi. Plusieurs maisons se sont écroulées et d'autres inondées, les caniveaux et les ponts débordés, rendant difficile l'évacuation de ces eaux. L'invité de ce journal est la chargée de communication de l'organisation alternative pour un Congo nouveau, une synergie des organisations de la société civile. Jacqueline Kamate parle des élections primaires au sein de sa structure en vue d'obtenir un candidat de la société civile à l'élection présidentielle de décembre prochain. Encore une fois, bonjour. Le retrait accéléré de la MONUSCO, principalement commenté par plusieurs pays membres de l'Organisation des Nations Unies au cours de la séance d'hier jeudi au Conseil de sécurité consacré sur la situation de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères a réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité d'accélérer le retrait de la mission à partir de décembre de cette année. Cependant, Christophe Lutundula insiste sur le fait que ce retrait accéléré ne doit pas être confondu à un départ précipité. La France dit veiller à ce que cette demande des autorités congolaises soit entendue tout en rassurant de son accompagnement pour un retrait responsable. Les États-Unis d'Amérique se sont montrés réservés quant au départ accéléré. Grâce Hamzati nous fait le condensé des réactions des uns et des autres.
La France appelle à une réponse collective aux attentes des Congolais sur le retrait de la MONUSCO. C'est ce que dit Nicolas Desrivières, le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies.
Nous souhaitons que le Conseil de sécurité prenne pleinement en compte les demandes concrètes et réalistes des autorités congolaises. Les autorités congolaises ont un rôle central à jouer dans ce processus, au terme duquel elles prendront totalement à leur charge la sécurité de l'ensemble du peuple congolais.
Les États-Unis d'Amérique pensent plutôt que la communauté internationale doit faire en sorte que le départ de la MONUSCO ne vienne pas exacerber une crise humanitaire déjà grave. Les USA proposent au Conseil de sécurité d'engager un dialogue avec les autorités congolaises pour l'efficacité de la MONUSCO. Mais ils insistent sur le fait que les choses doivent être claires, car la mission seule ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité dans l'est du pays. L'avis des États-Unis est partagé par le Brésil, qui redoute que le retrait de la MONUSCO ne puisse créer des vides de sécurité et des luttes de pouvoir pouvant engendrer des violences et des atteintes aux droits de l'homme. Un départ précipité des casquets bleus pourrait entraîner des conséquences néfastes pour des milliers de personnes déplacées internes. La présence de la MONUSCO constitue le seul rempart, aussi faible qu'il soit, contre les violences et les abus des groupes armés, rétorque pour sa part la Suisse. Quant à la Chine et la Russie, elles appellent le Conseil de sécurité à prendre en compte la demande de Kinshasa, mais en s'inspirant des considérations rationnelles, de tenir compte de la situation sur le terrain et d'agir de manière graduelle et responsable.
En Ituri, remise hier jeudi à Bounia, des médailles de reconnaissance à 142 casques bleus des contingents aériens bangladais et marocains de la MONUSCO. Le commandant adjoint de force de la MONUSCO qui a présidé la cérémonie à l'aéroport de Bounia a salué leur contribution à l'exécution du mandat de la mission de l'ONU dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Nema Magira pour le reportage.
La remise des médailles des Nations Unies est un signe de reconnaissance d'engagement opérationnel à ces contingents en fin mission en République démocratique du Congo. Ils ont contribué à la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO à travers l'appui logistique aux casques bleus, mais aussi aux FRDC. Et c'est ce qu'a souligné le général Benoît Chavana, commandant adjoint des forces de la MONUSCO.
Nous sommes très satisfaits de la qualité des services, de l'engagement, du professionnalisme des officiers et des soldats qui ont servi dans cette mission. Les unités d'hélicoptères, c'est quelque chose d'essentiel pour nos propres besoins logistiques et opérationnels, pour dépêcher des unités sur place là où une urgence l'impose. Et c'est essentiel pour remplir une partie de notre mandat qui est le soutien au FRDC dans plusieurs domaines qui sont le ravitaillement en munitions, en vivres, en carburant, mais également les évacuations sanitaires de soldats blessés ou malades. Et c'est des actions qui sont quotidiennes et qui exigent une disponibilité permanente.
Ce sont 119 casques bleus du Bangladesh et 23 du Maroc qui ont reçu les médailles de reconnaissance après une mission d'un an en Ituri. D'autres prendront la relève. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
En bref, à Goma, les personnes blessées hier jeudi à la suite d'une explosion accidentelle d'une roquette au stade de l'Unité suivent toujours des soins à l'hôpital provincial. La victime qui a succombé de ses blessures hier est un jeune homme de 21 ans. Missona Kaezi Jean s'entraînait avec ses coéquipiers du FC Likoji, une équipe locale, alors que l'incident est survenu. Rappelons que dans un communiqué officiel rendu public hier soir, le porte-parole du gouverneur a précisé que la roquette RPG-7 que détenait un soldat des FARDC à bord d'une Jeep a lâché par inadvertance avant que les projectiles n'atterrissent sur le terrain du stade de l'Unité en faisant un mort et 12 blessés, y compris les militaires qui portaient cette arme. Et puis une vingtaine de membres de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et la réduction de la violence armée CNCALPC viennent de clôturer leur formation à Beni. Ils ont été outillés pendant 3 jours à l'identification et à la documentation des armes légères et petits calibres et munitions associées. Une formation organisée par la cellule armée. La cellule armes embargo de la MONUSCO. Les participants disent être prêts à rendre service à la suite de la manière de la matière apprise. C'est ce qu'explique Chichafou Rubugizo Boudjo, chef de poste principal adjoint de la CNCALPC Beni, au micro de Guylaine Kassassia.
Nous avons des agents qui doivent être déployés sur le terrain d'ici et là. Nous devons connaître l'arme, son fonctionnement. Nous sommes seulement limités sur l'identification de l'arme, son fonctionnement. Il y a le programme du PDDRCS qui appelle aux membres des groupes armés à quitter la forêt et déposer les armes. Lorsqu'ils maintenant ils répondent à l'appel du chef de l'État en remettant les armes, nous, la CNCLPC, avec le concours des autres services de sécurité, entre autres FRDC, PNC, ces armes doivent être identifiées et enregistrées, bien sûr, pour constituer et alimenter notre base de données pour éviter que ces armes ne puissent plus y encore retourner et aller encore dans la brousse pour alimenter les groupes armés. Ce sont les armes illicites, les armes qui se retrouvent bien sûr entre les mains des personnes non attitrées. Nous sommes tellement outillés. D'ici là, vraiment, nous sommes prêts à travailler pour le compte de la population pour identifier ces armes-là. Et à cette occasion, j'appelle tous ceux qui détient l'arme illégalement dans sa maison qu'ils puissent la remettre à la CNCLPC pour son identification et aussi son enregistrement. Comme nous sommes dans la phase de la remise volontaire des armes, c'est sans poursuite judiciaire.
À Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, d'importants dégâts matériels sont enregistrés après la pluie diluvienne de la nuit de mercredi à hier jeudi 28 septembre 2023. Plusieurs maisons se sont écroulées, d'autres inondées. Les caniveaux et les ponts construits sur le boulevard du 21 novembre depuis 2017 par la Banque mondiale pour canaliser les eaux de pluie vers la rivière Kwilu sont tous débordés, rendant difficile l'évacuation des eaux. En pleine ville de Bandundu, la population de certains quartiers circule avec des pirogues pour se déplacer. Certains habitants indiquent que cette situation est due au fait que des collecteurs soient bouchés faute d'entretien. Les points avec Irène Boma.
Les quartiers Bonkoukou et Salaminta, situés dans la commune de Dissasi à Bandundouville, sont les coins les plus concernés par cette situation. Plusieurs maisons d'habitation ont été endommagées, dont une dizaine écroulées des suites des débordements des eaux pluvieuses. Dans la journée d'hier jeudi, élèves, travailleurs et autres habitants ont pris la pirogue pour traverser ces eaux, moyennant 200 francs congolais, ont-ils fait savoir. Plusieurs familles sinistrées sont pour l'instant sans abri et passent nuit à la Belle Étoile. Certains habitants de ces coins attribuent cette situation notamment au non-entretien des caniveaux et ponts construits sur les boulevards du 21 novembre pour canaliser l'eau des pluies.
Les caniveaux ici, le collecteur principal ici s'est bouché. On ne prenait pas les entretiens de cela. C'est pourquoi vous voyez, il y a eu des inondations. Plusieurs maisons sont tombées, plusieurs parcelles sont sous l'eau. C'est comme une rivière là. Le vrai problème est que nos autorités pensent à cette population de l'autre côté de chercher des vases et moyens pour que dans des prochaines pluies, que la population vive dans de bonnes conditions.
Contacté, le bourgmestre de la commune de Dissès s'est dit avoir déployé sur terrain une équipe pour des enquêtes en vue d'une solution. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la société civile du groupement de Bassor Amadioué, à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni, alerte sur l'état de délabrement très avancé du pont sur la rivière Kishikivi, sur l'axe routier Maboya-Mabalako-Kantine. Selon Justin Kavalani, son président, la vétusté de ce pont est à la base de cette situation qui présente des risques pour les usagers. Les camions de gros tonnage en provenance de Butembo pour Mabalako sont obligés de faire un long détour pour atteindre leur destination, indique-t-il. Compte tenu de l'importance de cette route de dessert agricole, cet acteur de la société civile plaide pour la réhabilitation urgente de ces ponts. Justin Paluku Kavalani explique au téléphone de Guylaine Kassassia.
Les ponts qui viennent dans un état de délabrement très avancé et qui ne rassurent plus les usagers de cet axe routier. C'est pourquoi nous sommes en train d'alerter toutes les autorités, chacune selon ses compétences, de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour que l'on puisse prévenir les risques que les usagers peuvent courir au niveau du pont qui vit. Et nous rappelons que c'est dans un axe routier de desserte agricole et avec une attribution que nous sommes en train de demander à premier lieu de fixer ses regards au niveau de ses ponts pour essayer de pallier à ces problèmes avant que le pire n'arrive. Dans l'angle de prévention, nous demandons aux propriétaires des camions à provenance de Butembo, à direction de Madiwe et dans différents marchés au niveau de Mabalak, c'est mieux de passer par Beni que de passer par Fisik pour rejoindre Cantine ou Mabalak parce que les ponts ne peuvent plus supporter le passage des camions de poids lourd.
Le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle a nommé des nouveaux chefs de secteur à travers tous les territoires des 26 provinces de la RDC. Dans son arrêté du 27 septembre 2023, Eustache Mouanzi Moubembe motive cette mise en place par la nécessité de corriger la violation de la Constitution et de l'ordonnance fixant les attributions des ministères. C'est le cas ici de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 10 juillet 2023 qui a procédé à une désignation irrégulière des chefs de secteur dans différentes provinces. Des détails avec Billy Yvan Lutumba.
La mise en place des chefs des secteurs, souligne le ministre Eustache Mouanzi, a pour visée de régulariser la désignation des autorités qualifiées, compétentes et engagées pour le développement local. Ainsi, en vue d'assurer la continuité et le fonctionnement régulier des institutions au niveau des entités territoriales décentralisées et des secteurs, en attendant l'élection et l'installation des animateurs de ces institutions, le ministre de la décentralisation entend renforcer l'autorité de l'État au niveau de ses ETD pour faire régner l'ordre, la paix et la sécurité pour le mieux-être et l'épanouissement des populations locales. À travers cet arrêté publié ce 27 septembre 2023, le ministère note l'impératif de la matérialisation de la réforme de la décentralisation pour implémenter les principes et la philosophie institutionnelle de fonctionnement des ETD selon la Constitution. Et pour bien donc s'imprégner des noms des nouveaux désignés, prière consulter toutes nos plateformes numériques, notre site www.radiocapi.net.
En bref, les automobilistes de Lubumbashi peinent à s'approvisionner en carburant ce vendredi. Et pour cause, la plupart des stations-service ne sont pas opérationnelles. Parmi les rares qui sont ouvertes, nombreuses d'entre elles ne servent que leurs abonnés. Les autres ont revu à la hausse le prix du litre qui se vend jusqu'à 4 000, voire 4 500 francs congolais, ce qui donne libre cours aux revendeurs communément appelés Kadhafi. À certains endroits, ils fixent le prix de 5 000 francs congolais le litre. Conséquence, les chauffeurs de taxi et taxibus ont revu à la hausse le prix de la course qui est passé du simple au double sur certaines lignes, notamment aux heures de pointe. Les pétroliers évoquent la rupture des stocks et le non-paiement par le gouvernement du manque à gagner qu'ils enregistrent en vendant le carburant au prix qu'il leur impose. Les pétroliers indiquent aussi que sur le marché international, le prix du baril est revu à la hausse. Toutefois, à ce stade, il n'est pas encore d'un mouvement de grève.
Actualité internationale.
Au Gabon, la classe politique s'inquiète d'une transition trop longue, justement après l'intervention du premier ministre de transition. Raymond Dong Sima a tenu sa première conférence de presse sans donner des calendriers détaillés des transitions ni préciser sa durée. Des annonces qui suscitent encore des interrogations et diverses réactions. Et puis au Niger, une attaque djihadiste a ciblé hier jeudi une position de l'armée près de Kandadji dans la zone des trois frontières. Une forteresse de l'armée située près de Kandadji, où un barrage hydroélectrique est en construction, a été visée. Il n'y a pas pour le moment de bilan officiel, mais les chiffres d'une douzaine de pertes de militaires tués circulent.
L'invité.
Nous recevons dans ce journal comme invité Madame Jacqueline Kamate, chargée des communications de l'Organisation Alternative pour un Congo Nouveau, une synergie des organisations de la société civile. Elle nous parle des élections primaires au sein de sa structure qui auront lieu ce samedi en vue d'obtenir un candidat de la société civile à l'élection présidentielle de décembre prochain. Jacqueline Kamate s'entretient avec Paul Matendo.
Madame Jacqueline Kamate, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paul.
Votre plateforme Alternative pour un Congo Nouveau organise des élections primaires ce samedi. Alors, c'est quoi exactement Alternative pour un Congo Nouveau ?
Alternative pour un Congo Nouveau, c'est une plateforme de la société civile regroupant à son sein une vingtaine d'organisations issues de la société civile en vue de déboulonner les systèmes prédateurs depuis 1960 déjà.
Dites-moi, vous organisez des élections primaires ce samedi. Quel est l'objectif de ces primaires ?
L'objectif de ces primaires, en fait, c'est de sortir un candidat issu de la société civile qui sera porté pour concourir à la magistrature suprême. Le candidat qui sera porté président de la République doit rencontrer les contrats sociaux que nous avons proposés et qui regroupent les désiderata de la population congolaise.
Quel est le contenu de ces contrats sociaux ?
En fait, le contrat social a été élaboré après les consultations populaires Congo-Tolingi. On est parti vers la population pour savoir leurs attentes par rapport à ce qui se passe dans le pays, la sécurité, les sociales. Et donc, le contrat social regroupe tout ça. Et les candidats qui doivent venir avec un projet de société qui propose du moins des solutions par rapport à toutes ces attentes-là de la population.
Il y a déjà des candidats qui se sont prononcés à l'élection présidentielle. Êtes-vous prêt à faire des alliances après les primaires avec des candidats d'autres mouvements ?
En politique, on ne peut pas se passer des alliances. Si alliance se fera avec un candidat dont les idées, dont le projet rencontre également nos projets à nous, nous rencontrons le projet de notre candidat parce que ce qui est sûr et certain, nous porterons un candidat pour concourir à la présidentielle. Si notre candidat fera une alliance quelconque avec un autre candidat, ça signifie que le projet de ces candidats-là doit rencontrer à tout prix le projet de notre candidat aussi.
Alors, vous dites que dans votre plateforme, il y a beaucoup plus d'organisations féminines. Est-ce qu'on peut s'attendre, après les primaires, à une candidate à l'élection présidentielle ?
Candidate, oui, on a une candidate femme qui va être portée candidate pour les primaires. On a aussi des hommes autour d'elle. Nous, ce n'est pas à nous de décider qui sera candidat après ce primaire. Ce n'est pas à nous de voter, c'est le public qui va voter. Et ce sera au public de choisir qui sera porté candidat par rapport à son projet. Parce que, si on doit le dire comme ça, le projet sera exposé dans la salle le samedi 30 septembre au Centre culturel Boboto. Chaque candidat aura une vingtaine de minutes pour exposer son projet et pouvoir séduire le public qui sera là. Et ce sera au public de voter et de choisir, de décider qui sera les candidats de la société civile. C'est pas à nous, organisateurs, de dire on va porter une femme, on va porter un homme. Ça, c'est pas à notre niveau.
Le contrat social Congo-Tolingi est déjà porté par un candidat. Êtes-vous prêt à conclure un mariage avec lui?
Le contrat Congo-Tolingi n'est pas porté par un candidat en réalité. Le contrat social est porté par la société civile. Ce n'est pas un candidat. C'est vrai qu'il y a une figure emblématique des mouvements citoyens qui nous a accompagnés le long de consultations populaires Congo-Tolingi. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui porte ce contrat social, non. C'est juste, comme il est dans le mouvement citoyen, le projet était attrayant pour lui. Il a accepté de nous accompagner pour ce projet-là, mais ce projet-là ne lui appartient pas. Le contrat social ne lui appartient pas non plus.
Alors, quel est le message que vous donnez à toutes ces femmes qui vous entendent et qui veulent participer à ces primaires ?
Participer aux primaires, au jour d'aujourd'hui, les électeurs sont connus. On a eu à demander des propositions de nos organisations membres pour avoir 500 électeurs, ce qui est déjà fait. Mais ce que je peux demander à la population congolaise en général, aux femmes en particulier, c'est de porter un intérêt particulier à ces primaires, avoir un œil ouvert lié sur ces candidats le long du processus électoral.
Madame Jacqueline Kamate, je vous remercie.
Merci, Monsieur Paul.
Jacqueline Kamate, chargée des communications de l'Organisation Alternative pour un Congo Nouveau, était notre invitée et s'entretenait avec Paul Matendo. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipelamondo, coordonné par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Alain Goy. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.